Le débat du jour.
Philippe Le Caplin.
La dépêche est tombée il y a 1h30 de cela. La sénatrice LR, Joëlle Garriaud-Mellam, a partagé mercredi un déjeuner de travail à l'hôtel Meurice à Paris. Elle vient de le reconnaître à l'agence France-Presse après avoir été épinglée par Mediapart. C'est dans la continuité de la polémique sur les dîners clandestins. Dans le débat du jour, intéressons-nous à ce ressentiment d'un certain nombre de Français de base, comme on pourrait dire, à l'encontre des premiers de cordée, chers au président de la République, au moment même où le chef de l'État, ancien élève de l'ENA, annonce la suppression de cette institution qui a formé des générations de gouvernants et de grands chefs d'entreprise. Alors que nous subissons un troisième confinement, entre informations, rumeurs et fantasmes, bruisse donc cette affaire dite des dîners clandestins. Après le mouvement des Gilets jaunes, voilà qui désormais alimente toutes les suspicions envers les élites. Cette indignation révèle une crise profonde, nous allons le voir. Alors, la crise sanitaire provoque-t-elle une nouvelle défiance anti-élite? C'est la question du débat du jour sur RFI.
RFI.
Bonsoir Philippe Pascaud.
Bonsoir.
Ancien maire adjoint de Manuel Valls à Évry, vous êtes l'auteur entre autres de Mensonges d'État aux éditions Max Milo. Bonsoir William Géniès.
Bonsoir.
Vous êtes politologue à Sciences Po, vous êtes un spécialiste de la sociologie des élites politiques. Et Éric Anceau, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Historien, maître de conférences à la Sorbonne, auteur des Élites françaises, des Lumières au grand confinement, un livre publié par les éditions Passé Composé. Alors, pour bien comprendre les raisons de cette rocambolesque affaire et surtout l'émoi qu'elle suscite, revenons sur les faits. Tout commence quand M6 diffuse un reportage dans lequel on voit une soirée privée se déroulant au palais Vivienne à Paris. En voici le récit.
Menu cher et luxueux, cadre idyllique, robe de soirée, une quarantaine de convives sans masque semblent vivre hors du temps. Est évoquée la présence de ministres et il est question alors d'un mystérieux homme aux cheveux gris. Il n'en faut pas plus pour enflammer les réseaux sociaux. L'apparition du hashtag « on veut des noms » en est la preuve. À la suite de cette diffusion, l'endroit a été perquisitionné, tout comme le domicile parisien du chef cuisinier Christophe Leroy. Lequel, tout comme l'organisateur de la soirée, Pierre-Jean Chalençon, ont ensuite été placés en garde à vue, entendus par la brigade de répression de la délinquance. Le porte-parole du gouvernement, qui a reçu une invitation, l'a fermement refusé, déclare sa collègue au gouvernement, Marlène Schiappa. Franck Riester, le ministre délégué en charge du commerce extérieur, soupçonné d'être l'homme aux cheveux gris, se voit alors obligé de démentir sur Twitter. Le ministre de l'économie se doit aussi de remettre les pendules à l'heure. Selon les premiers éléments des investigations, aucun élément ne permet de mettre au jour la participation d'un membre du gouvernement aux repas qui font l'objet de cette enquête. Mais voilà, le mal est fait, à tel point que l'affaire s'invite à la table du Conseil des ministres. Le président de la République rappelle le mercredi matin à l'Élysée que son gouvernement a un devoir d'exemplarité. Dans le même temps, Emmanuel Macron dénonce une société de la délation et de la calomnie permanente. Finalement, l'organisateur de la soirée fait son possible pour calmer la tempête en parlant d'un simple poisson d'avril. Il n'empêche, le mal est fait.
Et oui, l'adage ne dit-il pas « calomnier, calomnier », il en restera toujours quelque chose. C'est d'ailleurs ce qu'a lancé Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Pour le politologue Jérôme Fourquet, cette affaire se fait le miroir d'un phénomène plus large, une société de défiance. La coupure entre la base et le sommet est de plus en plus prononcée, dit-il. Alors est-ce que vous partagez les uns, les autres, cette analyse ou est-ce que vous pensez qu'il ne s'agit qu'une tempête politico-médiatique dans un verre d'eau? William Géniès.
Bah, tout d'abord, bien entendu, les faits que vous venez de mentionner révèlent le discours anti-élite qui est dominant dans notre société aujourd'hui. Mais moi, ce que je voudrais préciser, c'est que c'est quelque chose qui s'inscrit depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, et que aujourd'hui, avec la situation de crise de pandémie que nous traversons, il y a vraiment un discours anti-élite mené par les mouvements populistes et qui a une résonance sur les réseaux sociaux, sur les médias, qui dépasse ce que ce fut par le passé.
Vous diriez, Éric Anceau, qu'effectivement, ce n'est pas nouveau tout cela?
Oui, alors c'est ce que je montre dans mon livre. La défiance à l'égard des élites depuis le début de l'époque contemporaine, depuis la Révolution, est un fait majeur. Vous savez, les périodes à l'inverse de confiance se comptent sur les doigts des deux mains. Citons-en quelques-unes, la fête de la Fédération, les Trois Glorieuses de 1830, le printemps 1848, le gouvernement Poincaré de 26 à 28, le début de l'ère gaullienne, et c'est à peu près tout. Mais ce qui est vrai, William Géniès le soulignait à l'instant, c'est que là, on entre dans une défiance généralisée. On a franchi un véritable seuil. Nos élites ne semblent plus avoir prise sur rien, en particulier les élites dirigeantes, et ne pas résoudre la crise. Et bien évidemment, l'effet délétère et amplificateur des réseaux sociaux ne fait strictement rien pour arranger les choses.
Votre opinion, Philippe Pascaud, je rappelle que vous avez signé Mensonge d'État, Pilleur d'État, plusieurs bouquins.
Et je connais bien l'auteur en plus. Moi, je ne peux pas dire qu'il y a un discours anti-élite. Si les élites étaient correctes, ça ne poserait pas de problème. Mais je constate quand même que ces gens-là, qui se disent critiqués, nous demandent de plus en plus de nous serrer la ceinture, alors que les faits démontrent qu'eux desserrent la leur. Et que ça devient inadmissible. Que d'un côté, il y a des gens qui crèvent la dalle, et qu'il y a de l'autre côté, des gens qui vont dans des restaurants, qui payent très très cher, et en douce, à contrario des lois qu'il nous impose.
On se souvient de l'affaire des homards de François de Rugy, alors qu'il était président de l'Assemblée nationale.
Alors qu'il n'en mange pas, le pauvre petit.
Oui, il disait qu'il était intolérant aux fruits de mer, aux poissons. Il avait dû démissionner du gouvernement. C'est déjà la deuxième affaire, deuxième grosse affaire.
Excusez-moi, ce n'est pas la deuxième, c'est la centième affaire. Je rappelle quand même aujourd'hui que dans la vertu d'exemplarité que nous a asséné M. Macron hier, j'ai les preuves aujourd'hui qu'il y a 50% du gouvernement qui a eu affaire au fisc ou à la justice. 50% des gens qui nous dirigent. Et ces gens-là nous parlent d'exemplarité. J'arrive même pas à dire le mot. C'est une honte la façon dont ils en parlent, de ce que eux ne font pas.
Alors cette ambiance a parfois été alimentée par des politiques eux-mêmes. À l'image du député de la France Insoumise, Bastien Lachaud, il a écrit ce tweet.
La police verbalise la jeunesse populaire quand elle ne porte pas son masque. Mais les puissants trinquent dans les restaurants clandestins. Les pauvres et les étudiants font la queue à l'aide alimentaire, mais la caste fait la fête dans ces soirées privées. Qu'ils dégagent !
Qu'ils dégagent ! Cela fait penser à la rhétorique des gilets jaunes, Philippe Pascaud.
Oui, et puis qu'ils dégagent, c'est clair. Il y en a marre de ces gens-là, parce que je rappelle que là, on parle des ministres qui étaient dans un restaurant, mais il y a 15 jours, c'était des journalistes et des grands journalistes qui dînaient dans un restaurant clandestin. Je constate simplement que les restaurants clandestins, c'est à 220 euros. Le repas, et ce n'est fait que pour les riches. Pour les pauvres, c'est la gamelle.
L'éditorialiste Alain Duhamel, vous y faites allusion, et l'ancien ministre Brice Hortefeux, qui disait bien évidemment de ne pas savoir qu'il était dans l'illégalité.
Un grand patron d'un média.
William Géniès, quand vous assistez à cette chronique-là, cela vous surprend où finalement il y a maintes fois dans l'histoire politique pareille affaire?
Alors, moi, je voudrais préciser deux choses. D'une part, il y a le discours qu'on reprend sur le plateau que nous composons, du discours anti-élite et un certain nombre de justifications et de légitimations qu'on pourra rediscuter peut-être dans le corps de l'émission. Mais je voudrais déjà rappeler l'histoire du mot élite, parce que la critique des élites, c'est quelque chose qui est relativement récent. Pas du fait qu'il y ait des élites, mais du mot « élite ». Il ne faut pas se tromper là-dessus, c'est un mot qui est devenu très valise et très à la mode, et qui a la résonance dont on vient de parler. Mais historiquement, quand le mot a été créé, c'est un mot de racine française, créé à la fin du XIXe siècle, et on disait « élite » pour se distinguer des aristocrates qui étaient des héritiers du sang, et l'élite renvoyait à quelque chose de positif, la fleur de la société et la méritocratie. Il s'avère que depuis un siècle et demi, les choses ont un petit peu changé, et que donc ce mot qui était positif au début est devenu un mot valise, mais complètement négatif. C'est ce dont on vient de parler. Alors là-dessus, je suis à la fois d'accord avec certaines choses qui ont été avancées, mais il me semble qu'on va un peu vite en dénonçant l'ensemble des élites comme si toutes les élites, qu'elles soient politiques, économiques ou administratives, avaient des comportements déviants et ne montraient pas l'exemple.
Éric Anceau, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que le mot élite, finalement, est devenu, d'après William Géniès, un terme péjoratif ?
Oui, tout à fait. Alors moi, j'aurais tendance à remonter un petit peu plus haut dans le temps, mais en tant qu'historien, mais je suis totalement d'accord avec lui. Effectivement, les élites, déjà, c'est un pluriel. Il ne faut pas tout mélanger. Là, il y a quelques cas. Et à contrario, je dirais que si on creusait un petit peu du côté de la France insoumise ou du Rassemblement national, qui paraissent aujourd'hui si critiques, on verrait que dans ces deux partis, il se passe également des choses. Alors, remplacer les élites en place par d'autres, moi je veux bien, mais en fait, c'est pas sur ça qu'on juge les élites du pouvoir, c'est sur leur capacité à nous sortir d'une crise. En l'occurrence, la pandémie actuelle. Là, me semble-t-il, il faudrait qu'on insiste sur ce point, la pandémie est peut-être très mal gérée.
Ouais, on va y revenir dans la deuxième partie de cette émission. Oui. Une question simple, mais dont la réponse est certainement très compliquée. Pourquoi est-ce que le peuple français déteste-t-il à ce point ses élites?
Parce qu'ils ne montrent pas l'exemple. Parce que ces gens-là, et moi je ne parle même pas d'élite, je parle de corrompus. C'est tout à fait vrai. Et encore une fois, c'est trop poujasiste de dire que tous les élus sont des pourris, que toutes les élites sont des pourris.
Ce n'est pas
le cas. C'est pas ce que j'ai dit et c'est pas ce qu'on dit. On dit qu'il y a de plus en plus, malheureusement, d'élites et de corrompus, de gens qui nous dirigent. C'est tout. Mais c'est pas pour ça. On met pas tout le monde dans le même lot. C'est trop facile de dire qu'on fait un discours anti-élite. Moi, je fais un discours anti-corrompu. Et malheureusement, des corrompus, quand on remonte en haut de la pyramide, il y en a de plus en plus.
Éric Anceau, pourquoi le peuple français déteste-t-il à ce point ses élites dans l'histoire?
Alors, moi, je crois qu'il faut se déporter. Il faut regarder ce que les étrangers disent de nous, et en particulier les chercheurs. Il y a un politiste américain qui s'appelle Ezra Suleiman, qui connaît très bien la France, puisqu'il y a vécu très très longtemps, et qui, au milieu des années 2000, a publié un livre qui s'appelle « Schizophrénie française », dans lequel il montrait qu'en fait, les Français aspirent à tout et à son contraire. Et en particulier, nous sommes un peuple, on a coupé la tête du roi, donc on est un peuple qui aspire à l'égalité. Et en même temps, depuis cette époque, on est en quête également de verticalité. Alors, vous voyez, Macron a voulu jouer la verticalité en 2017, c'était la cérémonie dans la cour du Louvre, et très peu de temps après, on avait les affaires qui ressurgissaient, et donc c'est ce balancier, je dirais, qui désarçonne complètement le peuple. C'est vrai qu'un De Gaulle, par exemple, qui lui était en position de verticalité, le canard enchaîné l'avait caricaturé, vous vous souvenez sans doute, en Louis XIV, eh bien ne donnait pas prise à ce type de critique. Je ne dis pas que toute sa politique était vertueuse, mais il payait ses factures d'électricité et de gaz à l'Élysée.
Exactement. Vous parlez d'Emmanuel Macron, souvent présenté comme le président des riches, William Géniès. Il y a d'un côté donc le président des riches, et de l'autre côté le mouvement des Gilets jaunes, les grèves massives face à la réforme des retraites, et puis les records de mécontentement concernant la crise du Covid-19, la manière dont le gouvernement l'a géré.
Non, mais sur ce point, j'insisterai sur deux éléments. Le premier, et qui est en relation avec la crise du Covid dont nous allons parler, sa gestion, les mesures qui sont prises par le gouvernement, les sondages disent que les Français sont d'accord. En revanche, la popularité de Macron baisse. Donc il y a, par rapport à ce que disait mon collègue juste précédemment, quelque chose qui est ambivalent entre des mesures qui sont acceptées et un président qui est critiqué ou rejeté. Mais je voudrais rajouter quand même sur le cas d'Emmanuel Macron, parce que on fait des procès, on va vite, on a peut-être raison, mais il ne faut pas oublier que quand Emmanuel Macron a été élu président, il a eu l'élégance de démissionner de la Cour de l'inspection des finances, grand corps auquel il appartenait. Ce qui veut dire que lui, quoi qu'il arrive, il ne pourra pas bénéficier de la rente qu'on dénonce à certaines élites, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas réintégrer son corps après sa présidence, ce qui n'a pas été le cas de tous les présidents précédents.
Et je crois qu'il a annoncé également qu'il renoncerait aux avantages qu'ont tous les anciens présidents de la République, à savoir salaire, secrétariat, voiture, chauffeur et bureau.
Ça excuse pas le reste, hein. Ça ne culte pas le reste. Hein. Moi, je mets pas en avant ce genre de broutille qui est quelque chose est normal. Mais quand on affirme que M. Macron est le président des riches, je suis désolé. M. Macron, c'est vraiment le président des riches. Aujourd'hui, je rappelle quand même, juste pour information, que les 20 personnes les plus riches du monde ont eu une augmentation de 61% de leur capital pendant la pandémie. Et que les Restos du Cœur, le Secours Populaire, aujourd'hui, fait pléthore de clients. C'est-à-dire qu'ils ont une augmentation exponentielle des gens qui n'ont même plus de quoi manger. Il a cassé le code du travail, il a cassé les retraites, il a cassé la sécurité sociale. Est-ce que ces trois arguments que je viens de vous donner correspondent à la richesse? Non. correspond au peuple pauvre.
Éric Anceau, je vous cite ce que la candidate écolo à la région Hauts-de-France, Karima Deli, a écrit. On est dans cette affaire, on revient au resto clandestin, dans le deux poids, deux mesures. On n'est pas finalement dans l'idée que toute une partie de la société française refuse de se conformer aux règles communes ce serait justifié par le fait que les puissants, eux, ne vont pas s'y conformer. Genre, on peut bien organiser un repas de Pâques en famille si les ministres font des dîners clandestins.
Bon, il est clair que ça fait mauvais effet. Cela dit, dans les fameux dîners de Chalençon, il n'est pas avéré à 100%. On attend qu'on administre les preuves, que des ministres en exercice s'y sont rendus. C'est un ancien ministre, Brice Hortefeux, en l'occurrence, qui est incriminé. Quant à la sénatrice, aujourd'hui, c'est une sénatrice d'opposition. Bon, je crois qu'il faut dépasser, ça c'est je dirais, l'écume. C'est un petit peu secondaire pour se concentrer sur la politique qui est menée. Alors, j'entends bien ce que disait M. Pascaud et je suis d'accord avec lui. Effectivement, les écarts se creusent dans notre pays. N'oublions pas quand même qu'à contrario, la France est l'un des pays, peut-être même le pays, qui a le plus aidé, en fait, ces entrepreneurs en difficulté, ces cafetiers qui sont fermés, ces petits commerçants qui sont fermés. Alors, ça nous renvoie au fait qu'effectivement, on a fermé ces commerces là où d'autres les ont laissés ouverts. Et là, à mon avis, la situation est beaucoup plus complexe qu'on voudrait donner à le faire voir d'un côté ou de l'autre. Je pense qu'on est des deux côtés un peu dans la caricature et l'excès.
William, j'entends bien ce que vous dites. Je rappelle quand même que selon l'INSEE du 26 mars 2021, nous sommes à 121 milliards de déficit global pour l'année 2020. Donc c'est bien gentil d'aider comme M. Macron l'a dit. Mais qui va payer ? Comment on va payer 121 milliards, une augmentation de 9,2% du déficit global de la France. Donc ça va poser un problème, surtout quand on sait que, par exemple, M. Macron a décidé d'impacter la retraite sur le PIB. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, si jamais il avait mis en place cette retraite, on serait en train de donner de l'argent au gouvernement pour toucher une retraite.
Sur ce fossé entre le sommet et la base, ce que pensent les Français, ce que pensent leurs dirigeants, je voudrais qu'on revienne, William Géniès, sur ce fameux référendum sur Maastricht, où politique et médias avaient une position et les Français en ont eu une autre. Est-ce qu'on n'a pas là, finalement, un exemple de schisme entre la base et le sommet ?
Non mais... Dans une démocratie, il y a ce dont on parlait, les élites représentatives, des votes, des décisions, etc. Mais il y a des décisions qui, à des moments, ne sont pas acceptables par le peuple et parfois que les élites développent, les élites politiques, etc. et veulent faire passer. L'erreur, ça a été peut-être de soumettre au référendum. Après, on peut penser qu'il
fallait...
Pourquoi une erreur ?
Ben parce que le peuple a dit
la société n'était peut-être pas mûre pour accepter la construction de européenne et l'évolution qu'il y avait.
Si j'ai bien compris, on fait un référendum que quand on est sûr du résultat ?
Mais non, on ne fait pas un référendum quand on fait sûr du résultat. Mais si vous connaissez un petit peu comment fonctionne la démocratie, déjà vous ne direz pas les âneries que vous êtes en train de dire.
Avec mes excuses.
Excusez-moi. Mais je veux dire, il y a des procès, si vous connaissez bien l'histoire des moments dans la démocratie, des avancées ont été faites et soumises au peuple, ensuite admises ou pas. Il y a des éléments qui font que parfois les élites tirent dans le bon sens et parfois tirent dans le mauvais sens. Moi, je suis d'accord qu'on fasse un procès aux élites, mais là, il me semble qu'on part sur un procès pro domo sur des fautes qui sont à des élites dont on ne sait pas lesquelles c'est exactement. On a parlé de Macron, président des riches, mais... il me semble que Jean-Luc Mélenchon paye l'ISF et pas le président Macron. Il me semble que Marine Le Pen, qui dénonce aussi beaucoup également les riches, est une héritière et on connaît l'héritage de son père qui est contestable. Donc il me semble que beaucoup de gens disent tout et n'importe quoi et que ça n'éclaire pas le débat.
Je crois qu'on ne parle pas le même langage parce qu'aujourd'hui on parle des élites en général, qu'ils soient chez Macron, qu'ils soient chez Mélenchon ou qu'ils soient chez Marine Le Pen. Moi je ne suis pas en train de faire un discours anti-Macron, je fais un discours anti-corrompu. Je fais un discours anti-personne qui est en train d'oppresser et d'opprimer l'ensemble du peuple.
J'ai regardé ce que vous publiez, c'est très intéressant.
Merci.
Vous êtes en train de nous expliquer que toute la classe politique est corrompue.
Non.
Vous avez fait un livre dans lequel vous avez dit qu'il y avait 400 corrompus, mais il y a 50 000 élus, donc 400 sur 50 000, en pourcentage, ça fait quoi ?
Excusez-moi, monsieur, ne dites pas des âneries, contrairement à moi, il y a 700 000 élus en France, et si vous aviez lu mes livres, vous verriez que dans chacun de mes livres, je dis systématiquement que tous les élus ne sont pas pourris.
Donc, vous êtes en train de prouver, et vous avez les données pour le prouver, qu'aujourd'hui, la classe politique est plus corrompue que ce qu'elle fut par le passé.
Mais j'ai aujourd'hui des éléments de preuve qui fait qu'aujourd'hui, il y a de D'accord. plus en plus de corrompus en politique qui sont aux ordres de l'économique.
En tout cas, on est dans cette nouvelle défiance anti-élite dans le débat du jour sur Radio France Internationale.
Le débat du jour. Philippe Le Caplain.
On verra bien l'année prochaine avec la présidentielle si les Français mettent leurs actes en conformité avec leurs paroles, mais tous les sondages montrent qu'ils sont très sévères quant à la manière dont le gouvernement gère la crise du Covid-19. Cette crise qui a mis encore un peu plus d'électricité dans l'air puisqu'on a demandé beaucoup de sacrifices aux Français. Alors tout ce qui peut apparaître comme des passe-droits est encore moins accepté que d'habitude. Éric Anceau.
Oui, alors si vous m'entendez ?
Oui, oui, parfaitement.
Oui, parce que j'ai des petites sautes là de d'antenne.
Non, tout va bien.
Oui, si vous voulez, y a des sondages internationaux qui sont faits aujourd'hui qui nous donnent des éléments de comparaison. Moi, vous savez, je ne sais pas si les élites d'aujourd'hui sont plus corrompues que celles d'hier, parce que nous n'avons pas dans le passé les mêmes critères d'appréciation. Il y a toujours eu des affaires dans l'histoire. Alors, y en a-t-il plus aujourd'hui qu'avant ? Je ne sais pas. En revanche, ce que je peux vous dire, parce que là, on a des éléments de comparaison, YouGov ou Harris Interactive font des sondages à l'échelle internationale, et le peuple français est celui qui a la plus grande défiance à l'égard de ses élites, et en particulier dans la gestion de la crise de la Covid-19. Ça, c'est un fait. Et il n'a échappé à personne qu'on a eu la très mauvaise gestion des masques en début de crise, qu'aujourd'hui, alors c'est dans un cadre plus large, plus global, qui est celui de l'Union européenne, on a la très mauvaise gestion des vaccins, et entre les deux et tout au long de cette crise, la très mauvaise gestion de respiration en réanimation. On nous en annonçait 11 000 et on est très très loin du compte.
Est-ce que vous diriez que donc ce qui se passe, que vous décrivez, du pain béni pour tous ceux qui ont une défiance naturelle ou pas vis-à-vis des gouvernants, des élites politiques ?
Bien évidemment. Alors je dirais les responsabilités sont partagées. Vous savez, on évoquait tout à l'heure un référendum, mais nous avons le suffrage universel. Donc quand on est mécontent de ces élites dirigeantes, parce que encore une fois, les élites, il n'y a pas uniquement les gouvernants, il y a la haute fonction publique, il y a les élites intellectuelles, etc., les élites économiques. Mais quand on est mécontent de ces dirigeants, eh bien on les dégage. Donc le peuple a une part de responsabilité. Il ne l'a pas fait en 2017. Il ne s'est pas déplacé pour aller voter, ou bien il a donné une légère majorité en suffrage exprimé à Emmanuel Macron. Et voilà, donc il faut constater les faits.
Vous êtes historien, Éric Anceau. Rappelez-nous ce qui s'est passé en 1870 ou encore en 1940. C'était à peu près la même chose. Pas de lit de réanimation, pas de masque. Enfin, on était un petit peu dans l'incurie de l'État et de ses dirigeants.
Oui, Marc Bloch a publié un livre très important qui s'appelle « L'étrange défaite » en 1940, lui historien, et il a analysé à chaud ce qui se passait. Alors il incriminait non seulement l'élite politique, mais aussi la haute fonction publique. Il ne s'exonérait pas en tant qu'universitaire de la crise que traversait la France, la débâcle de 1940, et il évoquait bien évidemment aussi, grande part de responsabilité, le haut commandement militaire. Donc il y a cette récurrence en France, je dirais, d'une impréparation par nos élites des situations de crise. Ça, c'est un fait indéniable.
Quand le professeur Raoult dénonce les experts parisiens qui seraient incompétents, connivants, est-ce que William Géniès, il reprend ce type de schéma de la critique des élites systématiques ?
Le professeur Raoult, de ce point de vue-là, est assez paradoxal, parce qu'il a à la fois un discours de critique de l'élite parisienne, etc., de la centralisation tocquevillienne, etc., mais en même temps, si on écoute bien les vidéos, tout ce qu'il a dit, il est très élitiste parce qu'il dit « l'élite, c'est moi ». Donc il joue de l'ambiguïté du débat qu'on a, c'est-à-dire qu'à la fois il y a des politiques qui sont faites et qui sont mal faites parce qu'elles sont faites par la centralisation parisienne, l'entre-soi, etc. Et d'un autre côté, à la fin, il dit « mais il faut que ce soit des vraies élites qui gouvernent ». Alors comment choisir aujourd'hui des vraies élites ? Comment distinguer les vraies et les bonnes ? Bon, mais ça, je ne sais pas trop.
Mais là, c'est la montée des experts, c'est le gouvernement des experts.
J'ai quand même du mal, hein. Je vous écoute, hein, mais moi le mot élite m'écorche un petit peu, quoi. Arrêtons de parler des élites, c'est des gouvernants, des gens qui nous gouvernent. Et je peux vous assurer que dans les gens qui nous gouvernent, il n'y a pas que des élites, il y a quelques truffes. Hein.
Que faire maintenant pour réconcilier les deux camps ? Et Emmanuel Macron vient tout juste d'annoncer le remplacement de l'ENA par un institut du service public couvert. Est-ce que c'est un simple contre-feu politique, William Géniès ?
C'est du pipeau.
Ça, c'est l'opinion de Philippe Pascou. Et la vôtre, William Géniès?
Bah, c'est une réforme symbolique dans la mesure où, j'ai pu le commenter ailleurs, l'ENA va disparaître, ça va s'appeler l'ISIP, donc peut-être que le nom aura une charge symbolique moins importante. En revanche, les énarques qui ont été formés durant les 10 dernières années, qui ont des carrières de 30 ans, on en a encore quelque part dans l'administration 40 ans à avoir des énarques.
Bah, on a la promotion de l'ENA Voltaire qui était très représentée sous la présidence Hollande, la Saint-Gor sous celle de Macron.
Oui, se tiennent par la main.
Non, moi je suis pas, Alors moi je suis à la fois d'accord avec ce que dit mon camarade de plateau Philippe Pascou, mais d'un autre côté, je suis en train de préparer un livre sur les hauts fonctionnaires qui ont sauvé la sécurité sociale des années 90 à 2010-2020.
Tout à fait.
Qui font que la sécurité sociale. Donc j'appelle ce livre les hussards de la Sécu parce que il y a aussi des hauts fonctionnaires qui n'ont pas joué le jeu des mirobolants d'aller dans les banques, les nationalisations, les privatisations, etc., qui ont défendu un modèle, qui l'ont adapté, etc. Donc il y a quand même des gens qui travaillent au sein de l'État et qui sont des énarques par ailleurs pour la défense de l'intérêt public.
Je suis
commun.
Entièrement d'accord avec vous. C'est de la communication pure et simple. Supprimer l'ENA ne sert à rien.
Oui.
Il fallait renforcer la façon dont l'ENA fonctionne. Il fallait supprimer le pantouflage. Il fallait supprimer un tas de choses, mais pas forcément supprimer l'ENA.
Éric Anceau ?
Oui, je suis d'accord, effectivement. Le pantouflage ne concerne que 10 à 15% des énarques. Par ailleurs, ce qui pose problème, c'est ceux qui sortent dans la botte et qui se retrouvaient à 28 ans dans les grands corps à expertiser des fonctionnaires et aux fonctionnaires beaucoup plus expérimentés. Par contre, l'énarque de base, c'est qui ? C'est l'administrateur civil, c'est le préfet ou le sous-préfet, c'est celui qui se retrouve au Quai d'Orsay et l'immense majorité d'entre eux faisaient très bien leur travail. Je vous dirai un chiffre. On critique le fait que l'ENA, c'est l'entre-soi. Sait-on qu'aujourd'hui, depuis que Patrick Gérard a pris la tête de l'ENA, 32% des énarques sont boursiers.
Un énarque célèbre.
C'est moi grandes écoles.
Ce que vous dites est très intéressant. C'est-à-dire que pour une fois qu'on a un grand organisme où il y a 32% de boursiers, donc un accès à des gens qui n'avaient pas la possibilité d'y aller avant, bizarrement, on le supprime.
L'ENA, ben Jean Castex a fait l'ENA. Jean Castex est à Matignon, mais c'est également un homme de la province, le maire d'une petite ville. Est-ce que ça peut réconcilier le pays avec son élite politique, Éric Anceau ?
Jean Castex, c'est mal barré.
Oui, c'était à mon avis la volonté du président Macron en le nommant, car Jean Castex, à la fois, a priori, je suis dans une position de neutralité, a cet ancrage avec cet accent, il est maire de Prades, effectivement, il est originaire, lui, il est Caorsain à l'origine, et en même temps, c'est le haut fonctionnaire, donc il a l'expertise et l'expérience du terrain. Bon, aujourd'hui, effectivement, la gestion telle qu'il a menée de la crise depuis 8 mois ne plaide pas forcément en sa faveur. J'en conviendrai avec votre intervenant en plateau.
Spécialiste de la sociologie des élites politiques, William Géniès, vous partagez cette analyse ?
Oui, je reviens. Il ne faut pas faire du ENA bashing ou du élite bashing dans le sens où j'entends. C'est-à-dire qu'on peut critiquer certaines formes, certains comportements qui ont été pointés sur le tableau, mais la globalité, si on prend la masse des énarques, elle fait juste son travail, quoi. Elle fait juste son travail. Et en France, je voudrais pointer ça parce que c'est important, parce que dans le débat, en France, il y a eu une malheureuse confusion ou une fusion entre les hauts fonctionnaires ou de carrière ou énarques et la politique. Et il y a eu aussi également, depuis les années 70-80, un moment où la classe politique a dénoncé les technocrates, ces énarques, etc., tout en étant alimenté dans son personnel politique par ces mêmes gens. Et donc là, ça a créé quand même un clash. Et ça a eu certainement des dysfonctionnements au niveau de la légitimité de l'État et du bien public.
Une dernière chose, sur une minute, la minute qui nous reste, puisqu'on est sur RFI, est-ce que ce désamour dont on parle est un phénomène purement français, Éric Anceau, quand on voit les victoires des populistes en Grande-Bretagne, en Italie, dans les pays de l'Est ?
Je crois qu'il est de moins en moins proprement français. On le voit, vous l'avez rappelé, effectivement, on est dans le cadre d'une mondialisation. Et peut-être que les élites, justement, mondialisées ont de moins en moins de prise elles-mêmes sur la réalité. Alors là, je rejoindrai M. Pascou. Effectivement, il y a, me semble-t-il, une super élite qui est bien plus puissante que les élites dirigeantes des différents États. Et le problème est peut-être là.
Je confirme. Et c'est eux qui dirigent de plus en plus la société à travers des politiques qui, quelque part, se laisse faire.
Le mot de la fin avec William Genès.
Moi, si je peux rajouter, aux États-Unis, la critique des élites a quand même été très forte avec Donald Trump, hein, qui a réussi à critiquer ou à surfer sur la critique des 1% des super riches et également de l'élite washingtonienne, bureaucratique, etc., de Wall Street, quoi. Je veux dire, Donald Trump a montré qu'en critiquant les élites, on arrivait à accéder au pouvoir.
Merci.
Qu'est-ce qu'il en a fait?
Merci pour ces analyses et ces commentaires très intéressants aux uns et aux autres. C'était le débat du jour sur Radio France Internationale. Le débat du jour avec l'aide d'Éléonore Krajnik et de Jean-Philippe Thury. À suivre, un journal.